monsieur le directeur, et merci surtout, je crois, aux amis de l'association Bourgogne-Balkans Express, ainsi bien sûr qu'à tous les partenaires de ce colloque, comme la ville de Dijon. Alors, effectivement, j'ai très envie de rebondir sur ces trois mots qui viennent d'être martelés, stabilité, stabilité, stabilité. Et comme je suis de tempérament peut-être un petit peu provocateur, j'ai presque envie de vous dire que ma contribution va être un plaidoyer pour la déstabilisation. Mais ne le prenez pas mal, surtout, je crois qu'on pourra débattre et je vais essayer de poser quelques points de repère à la fois sur ces 20 années qui se sont écoulées depuis le début de ce processus d'éclatement de l'ancienne fédération yougoslave jusqu'à la situation actuelle. Alors, j'avais effectivement envie de poser quelques jalons, je ne vais pas vous faire 20 ans d'histoire, je vous rassure tout de suite, bien évidemment. Juste, reportons-nous par l'esprit, revenons à la situation du mois d'avril 1991. Quelle était la situation, là, il y a exactement 20 ans? La Krajina, donc les régions serbes de Croatie, venaient officiellement de proclamer leur sécession, le 1er avril. Les 3 et 4 avril 1991, une des dernières réunions de la présidence collégiale de la République socialiste fédérative de Yougoslavie s'était tenue. Il y avait également plusieurs rencontres entre les présidents des différentes républiques, ce qui n'est pas la même chose, qui étaient programmées durant ce mois d'avril. Et puis à Belgrade, il y avait un gouvernement réformateur, un gouvernement pour le coup partisan de l'intégration européenne, un gouvernement défendant une option à l'époque considérée comme très libérale. Bien évidemment, quand on dit libéral en 1991, rapporté au terme du débat en 2011, on devient un épouvantable gauchiste, hein, les termes du débat général ayant beaucoup évolué. Mais ce gouvernement réformateur qui était à Belgrade, désavoué en réalité, ou en conflit avec les directions nationalistes déjà en place dans les différentes républiques, défendait un projet de réforme de l'État fédéral associé à une modernisation libérale de l'économie, ou une libéralisation partielle de l'économie yougoslave, avec la perspective déjà avancée de l'intégration européenne. Bon, mais ceci étant, à l'époque, il n'y a eu aucun répondant, je dirais, du côté principalement de la communauté économique européenne de l'époque, pour fondamentalement deux grandes raisons. La première, ce sont les faiblesses structurelles de cette communauté européenne, le fait que ce n'était pas une Europe politique, alors que peut-être l'Union le serait aujourd'hui. L'autre type de raison, c'est que cette République socialiste fédérative de Yougoslavie était encore effectivement un État socialiste, et que le projet était celui de réformer un État qui se définissait toujours, au moins formellement, comme un État socialiste. La grande question, en réalité, était celle de la redéfinition de la souveraineté politique, qui passait nécessairement par l'organisation d'élections, parce que c'est ça là, une des bases, sûrement pas la seule, mais l'une des bases de la démocratie, de la souveraineté. Et la question était très simple, dans quel cadre on les organisait? Dans le cadre de la fédération, dans le cadre de celui des différentes républiques. Tout le projet réformateur qui était défendu par le Premier ministre à Belgrade était celui d'essayer de démocratiser la fédération. D'un autre côté, les oligarchies qui étaient en train d'accaparer le pouvoir dans les différentes républiques avaient un autre projet, celui de faire des sécessions, ce qui supposait de définir en d'autres termes, sur d'autres bases géographiques, la souveraineté politique. Face à ce débat, l'Union européenne, la communauté européenne, excusez-moi, la CE de l'époque, n'a pas été capable d'apporter de réponse politique, et nous connaissons bien les conséquences elles arrivent tout de suite. En juin 1991, la petite guerre de Slovénie éclate, les combats se généralisent en Croatie durant l'été, et puis la guerre arrivera, comme tout le monde s'y attendait, en Bosnie-Herzégovine, à peu près un an plus tard. Autre point de repère, j'ai envie de marcher par phase de 5 ans, avril 1996, où en sommes-nous? La guerre, en théorie, la guerre est terminée en Bosnie-Herzégovine, il y a eu la conclusion des accords de Dayton-Paris en novembre-décembre 1995, la Bosnie dans cette situation de destruction massive que certains d'entre vous ont pu voir notamment hier à travers le magnifique film Snieg, première neige qui était projeté à l'Eldorado, cette situation qu'évoquait également M. Paradis sur l'extrême dépendance du pays et de la population à l'aide humanitaire, une situation de reconstruction, de survie. Sur le plan politique, ces accords de Dayton avait été présentée comme une solution provisoire pour mettre fin au combat. En réalité, ce qui est assez extraordinaire, c'est que 15 ans après, on en est toujours en Bosnie-Herzégovine exactement au même point. Et alors là, pour la première fois, j'ai prononcé ce mot de stabilité. Quel était le critère majeur guidant l'action des diplomaties principalement occidentales durant cette année 95-96? C'était oui, faire que s'arrêtent les combats, et ensuite essayer de négocier à tout prix une forme de stabilité régionale, de stabilisation, de stabilité pour que ça ne bouge pas en pensant que si les gens arrêtent de se taper dessus, automatiquement les choses vont aller mieux. Or, arrêter de se taper dessus, c'est une bonne chose, mais qui ne suffit pas forcément pour que les choses aillent mieux. Alors, d'un côté, on a mis en place ce mécanisme théoriquement provisoire des accords de Dayton, qui en réalité se révèle. L'institution des accords de Dayton sont le cadre constitutionnel le plus stable jamais imaginé. À preuve, il est impossible de le réformer. Il n'y a pas plus stable que Dayton, sauf que la Bosnie meurt de cette stabilité. Parce que c'est une sorte de machine infernale qui, certes, a permis d'arrêter les combats, mais qui, dans le même temps, se révèle totalement irréformable parce qu'on a donné les clés de la machine à ceux qui ont intérêt à ce qu'elle ne marche pas, à savoir ces différentes oligarchies nationalistes, en l'occurrence les dirigeants bosniaques, serbes, les croates. Toujours au nom de la stabilité, on pensait, en ce début d'année 96, qu'une personne particulièrement fréquentable était M. Slobodan Milošević, garant de la stabilité régionale. Et au nom de ce rôle reconnu par toute la communauté internationale à M. Milošević, on a non seulement levé les sanctions internationales qui ont été rétablies 2 ans plus tard à peu près, mais on a surtout dit lors des accords de Dayton qu'il n'était pas question d'évoquer d'autres questions régionales, comme par exemple celle du Kosovo. Toute la stratégie de résistance des Albanais du Kosovo supposait une internationalisation de la question du Kosovo et de la situation anormale qui régnait dans cette province méridionale de la Serbie. Or, on leur a dit non, là, chers Albanais, on vous aime beaucoup, mais soyez sérieux, ce qui compte, c'est la stabilité de la région, donc, somme toute, vous allez un petit peu oublier vos revendications. M. Milošević est un garant de la paix, et le Kosovo, franchement, personne n'en a rien à faire. On connaît la suite des événements. Dès cette même année 96, justement le mois d'avril, les premiers attentats revendiqués théoriquement par Luceka, en réalité c'était peut-être pas tout à fait Luceka qui les a commis, mais peu importe, c'était plutôt les forces armées de la République du Kosovo, mais c'est un détail que ne connaissent que les spécialistes. En tout cas, le début des combats dont vous connaissez, je crois, grossièrement la suite. Avançons encore de 5 ans. 2001, avril 2001, qu'est-ce qui se passe? La Bosnie-Herzégovine n'a pas bougé, non, ça serait un miracle, mais a frémi. Lors des élections d'octobre, de novembre 2000, pour la première fois, une alternance à la domination des partis nationalistes a semblé pouvoir s'esquisser en Bosnie-Herzégovine. Une alternance extrêmement fragile, parce que ce mécanisme de Dayton a créé les institutions les plus stables, mais aussi les plus compliquées du monde, avec une dilution extrême des niveaux de pouvoir, qui fait que concrètement, il est à peu près impossible qu'il y ait une alternance en Bosnie. C'est bien pour ça que c'est le pays le plus stable du monde. Puisqu'il est impossible, même par la voie électorale, de changer les institutions. Ça serait le rêve, finalement, un petit peu de tous les gens qui aiment bien le pouvoir, qui ne puissent jamais être mis en dehors du fauteuil qu'ils occupent. Je ne dis pas ça pour les mérites disons, je vous rassure, M. Plébetic. Donc cette Bosnie, malgré tout, à l'automne 2001, avait connu la possibilité de voir apparaître d'autres majorités que celles des partis nationalistes, avec les coalitions qui s'organisaient principalement autour du Parti social-démocrate, mais l'expérience a très vite fait long feu. Par contre, au Kosovo, là, la situation avait radicalement changé, parce que le Kosovo, depuis près de 2 ans, était sous protectorat international, sous mandat des Nations Unies. 2001, pour ceux qui se rappellent, on a déjà un certain Bernard Kouchner est déjà rentré à ses chères études, il est parti en janvier. En avril, c'est un Danois, M. Ekerup, qui est représentant spécial du secrétaire général, donc chef de la MINUC au Kosovo, chef de l'administration internationale. Là, on est aussi dans une situation où le critère est la stabilité. La stabilité, alors on ne sait pas où on va pour le coup. On ne sait absolument pas où on va. Il n'y a aucun consensus au sein de la communauté internationale sur la direction que doit prendre le Kosovo. Mais on se dit que, faute de perspective, faute de stratégie, le tout est que ça tienne comme ça. Donc on maintienne ce protectorat. Alors bien sûr, on habille les choses de beaucoup de belles formules. Les formules qui font mouche à tous les coups dans les Balkans, vous les connaissez. La démocratisation et la multi-ethnicité. Donc on faisait de très beaux discours sur la démocratisation et sur la multi-ethnicité. Des sommes tout à fait considérables étaient investies sur ces deux thèmes, principalement au bénéfice de régiments entiers d'experts venus de tous les pays du monde. Qu'est-ce qui se passait sur le terrain? Par contre, j'ai juste donné un chiffre. Beaucoup de procès sont en train de s'ouvrir aujourd'hui au Kosovo. Selon à peu près tous les recoupements, entre juin 1999, c'est-à-dire l'arrivée des troupes internationales, et la fin de l'année 2002, 3000 personnes ont été victimes de meurtres politiques sur le territoire du Kosovo. Il s'agissait principalement de sympathisants de la Ligue démocratique du Kosovo, abattus par les hommes du CHIC, la police secrète du Parti démocratique de M. Farci. Ça, on n'en parle pas. Au nom de quoi? Au nom de la stabilité. Donc l'essentiel était que rien ne bouge, que l'on fasse des discours et des conférences sur la démocratisation. Si après on tuait des gens, ma foi, des adversaires politiques, bah, l'essentiel c'est qu'on n'en parle pas trop. Si les choses se font discrètement, qui pourrait trouver quoi que ce soit à y reprocher? Donc au nom de la stabilité, on était dans cette situation totalement schizophrénique d'un Kosovo à deux vitesses, un Kosovo théorique, un Kosovo formel, celui d'une administration internationale qui se félicitait chaque jour des grands progrès accomplis dans tous ces domaines, la démocratisation, la multiethnicité et d'autres choses, hein, le développement des champignonnaires ou de l'agriculture bio dans la commune de Ferizaille. Et puis un Kosovo réel, qui était un Kosovo avec un taux de chômage estimé à 60-70% de la population active, le pays le plus jeune d'Europe, des jeunes essayant par tous les moyens bien évidemment de partir. Et puis aussi, autre aspect de ce Kosovo réel, des minorités serbes et autres terrées dans des enclaves, et surtout, ce combat terrible pour le pouvoir que menait un petit groupe de gens, essentiellement autour donc de M. Thaçi, qui est toujours Premier ministre du Kosovo, par le biais de crimes politiques sur lesquels il y a eu une décision politique des pays occidentaux de tirer le voile. Toujours cela au nom de la stabilité, parce que pour les dirigeants de la NUC, le discours était on ne peut pas prendre le risque de procès, on ne peut pas prendre le risque d'un bras de fer avec ces gens dont on sait très bien que ce sont des brigands, des tueurs et des criminels, parce que cela déstabiliserait le Kosovo. Donc il fallait rester stable et laisser les brigands accomplir leurs crimes. Troisième saut dans le temps, 2006. Avril 2006, qu'est-ce qui se passe? Madame Milosevic vient de mourir, il est mort un mois plus tôt, en mars. La Serbie est gouvernée par Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica est un personnage intéressant, un nationaliste, mais qui a été reçu dès le mois d'octobre 2000 au sommet européen de Biarritz, juste après la chute de Milosevic, par tous les chefs d'État européens comme sauveur de la démocratie serbe, voire universelle, qui aujourd'hui est, d'une part la principale figure d'une droite radicale en Serbie, qui mène campagne essentiellement contre toute perspective d'intégration européenne du pays, mais enfin qui en 2006 était toujours considéré comme quelqu'un de parfaitement fréquentable. Pour le reste, au Kosovo, la situation était un petit peu compliquée. Un petit peu compliquée parce que cette stabilité, eh bien, les populations du Kosovo qui vivaient mal n'en voulaient plus et l'avaient manifesté à leur manière. En tout cas, les dirigeants politiques albanais, suivant des logiques politiques assez, tout à fait rationnelles de leur point de vue, avaient déclenché ces émeutes de mars 2004. À partir des émeutes de mars 2004, là, la communauté internationale s'est dit que cette stabilité posait problème. Il fallait donc faire autre chose. Alors autre chose, c'était quoi? Puisque les Albanais ou leurs représentants réclamaient l'indépendance, on va organiser l'indépendance. Avec, une des plus grandes mascarades de la diplomatie récente, qui sont les pseudo-négociations sur le Kosovo. Je dis pseudo-négociations parce que tout dans ce jeu était écrit. La seule question qui comptait pour les diplomates occidentaux, c'était, vous l'aurez deviné, la stabilité régionale. C'est-à-dire, en gros, que la Serbie ne réagisse pas trop violemment. De ce point de vue-là, finalement, les objectifs ont été à peu près atteints. La Serbie, bien sûr, n'a pas reconnu le Kosovo et n'est pas prête de le faire, mais enfin, ça s'est passé sans trop de désordre. La stabilité a été à peu près conservée. Par contre, le taux de chômage au Kosovo est toujours le même. Les citoyens du Kosovo qui ne bénéficient pas de la libéralisation du régime des visas européens continuent à émigrer par tous les moyens. Depuis que je suis à Dijon, c'est-à-dire depuis hier soir, j'ai dû croiser une quinzaine d'Albanais. Je ne sais pas combien d'entre eux avaient leurs papiers, mais ce n'est pas mon problème, en tout cas je ne suis pas flic. Mais il faut bien comprendre que cette jeunesse du Kosovo continue et continuera à partir, quel que soit le cadre légal, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour vivre. Alors, essayons de tirer quelques points de repère généraux par rapport à ces petites évolutions, ces petites sondes chronologiques. Premier constat, qui est tout de même paradoxal, c'est que les deux États qui nous intéressent plus particulièrement durant ce colloque, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, sont incontestablement les États les plus faibles de la région, les États les plus contestés, les États les plus éloignés de l'intégration européenne, alors que ce sont les États qui ont bénéficié des investissements internationaux, notamment européens, les plus massifs. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est les deux États, les deux pays où la guerre a été la plus dure, donc évidemment, il y a plus à faire, disons, au Kosovo ou en Bosnie-Herzégovine que dans les autres pays de la région. Mais si l'on regarde, si l'on voulait juger à l'aune des investissements, tant financiers que militaires ou civils qui ont été pris par l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale dans ces deux pays, on peut s'interroger sur la qualité des résultats. État les plus faibles, je ne vais pas rentrer dans le détail, en sachant que certains phénomènes comme la corruption ou la quasi-absence d'état de droit ne sont pas spécifiques à la Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Ce sont des problèmes qu'on retrouve par exemple au Monténégro ou un petit peu dans tous les autres pays de la région à des niveaux, à des degrés plus ou moins importants. Les États les plus contestés, je crois que ça c'est important. Le Kosovo, à ce jour, n'est reconnu que par 74 États de la communauté, membres des Nations Unies, ce qui veut dire que le Kosovo est toujours dans une sorte de no man's land institutionnel qui l'empêche de prétendre à l'adhésion à quasiment toutes les organisations internationales, hormis la Banque mondiale, où il y a un système de pondération des droits de vote. Donc le Kosovo est un État contesté sur le plan international, c'est également un État contesté sur un plan interne, puisqu'une partie des citoyens du Kosovo estime ne pas être citoyen du Kosovo, mais être toujours citoyen de la Serbie. On est donc dans cette situation particulière, sur un très petit territoire, d'un peu plus de 10 000 km², il y a deux légitimités étatiques qui continuent de coexister. Des aspects souvent plus compliqués, plus subtils que ce que l'on imagine les Albanais et les Serbes d'un côté. La réalité est un petit peu différente. Par exemple, le passeport serbe est un passeport intéressant puisqu'il permet la liberté de circulation aujourd'hui. La Bosnie-Herzégovine, elle, pour le coup, n'est pas un État contesté sur le plan extérieur. Dès le 6 avril 1992, la Bosnie-Herzégovine est membre des Nations Unies, reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Par contre, sur le plan intérieur, la Bosnie est un État contesté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, je dirais, de paradoxe bosnien, c'est que ces dirigeants des partis nationalistes, qui sont toujours les mêmes depuis les premières élections pluripartites de 1991, à savoir le SDA côté bosniaque, la communauté démocratique croate, le HDZ côté croate, et puis les partis serbes qui ont un petit peu changé, mais enfin, on change un petit peu le personnel politique, on change quelques sigles, mais on en revient toujours exactement au même équilibre des forces et aux mêmes arguments, aux mêmes débats qu'il y a 20 ans. Ces trois camps nationalistes ont à la fois, ces trois oligarchies nationalistes ont à la fois un intérêt extrême à ce que se maintienne la machine infernale de Dayton, à ce que rien ne bouge, à ce qu'aucune réforme ne puisse avancer. Donc ils sont passionnément attachés au cadre de fonctionnement de l'État et en même temps ils ne reconnaissent pas l'État. C'est un petit peu paradoxal, mais ils ne reconnaissent pas l'État. S'ils l'acceptent comme étant un excellent cadre pour faire des affaires, pour s'enrichir. Mais sur le plan de la symbolique, quand on parle de politique, je sais que la symbolique est importante, on continue à avoir les menaces de sécession agitées, alors bien sûr, fréquemment, par les dirigeants serbes de la République Srpska, mais aussi de plus en plus ces derniers mois par les dirigeants croates des deux partis, des deux factions du HDZ, du Parti nationaliste croate. Alors, sur la base de ce constat, il y a effectivement cette question d'un échec global des politiques de ce que l'on appelle le state building, de ce que l'on appelle la démocratisation. Il est évident, c'est lors du constat que le rendez-vous, le succès n'est pas au rendez-vous. Je crois qu'un des points, deux points sont importants. D'une part, encore une fois, cette terrible obsession de la stabilité qui a trop souvent guidé l'action internationale. La stabilité, mais alors là, je commence à nuancer mes propos pour que M. Paradis ne les prenne pas trop mal, la stabilité à court terme. On a une situation de guerre ou de crise, il faut trouver un machin qui va permettre de présenter une façade plus correcte. Donc, c'est se placer en permanence la communauté internationale avec un autre souci, celui de séparer les problèmes, de saucissonner les dossiers, en pensant qu'en gros, si on rafistole le bateau d'un côté, de l'autre côté, ça ne prendra pas l'eau tout de suite. On arrive au bout du compte à une espèce de barque qui n'a plus grand chance de flotter, mais qui continue, une sorte d'épave qui continue à se maintenir. On en est à peu près là. L'autre point, c'est celui de la démocratie. Et je crois, j'ai presque envie de dire, comme M. Paradis disait, stabilité, 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 que la vraie question aujourd'hui pour les Balkans, c'est démocratie, démocratie, démocratie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Au Kosovo, il y a eu une approche, tous ces efforts de démocratisation visant à, je dirais, comment dire, c'est la démocratie IKEA, c'est la démocratie en kit. La démocratie, c'est quoi? C'est trois recettes, trois techniques, comment faire des élections à peu près propres, on met du pipit sur les doigts des gens, ça on sait très bien le faire. Mais c'est pas ça la démocratie, et ça ne marche pas. Cette démocratie en kit, cette démocratie purement formelle, pour le coup, en réalité n'a rien à voir avec une véritable démocratie qui suppose une chose avant tout, qui est que la souveraineté politique appartienne au peuple, appartienne aux électeurs. Il y a une contradiction systémique, fondamentale. Quand il y a protectorat international, il n'y a pas de souveraineté. Donc arrêtons de faire des phrases sur la démocratisation. Quand il y a protectorat, il n'y a pas de démocratie. Et le Kosovo n'est donc pas, n'a jamais été depuis 1999, un État démocratique parce que c'était et c'est toujours un État sous protectorat. Protectorat et démocratie sont des concepts inconciliables. Donc on peut faire des élections, c'est bien d'en faire. On a vu tout de même, je dirais d'ailleurs si on examine les processus électoraux des 12 dernières années au Kosovo, ça ne va pas dans le bon sens, ça va exactement dans l'autre sens. Aucune élection n'a été plus honteusement manipulée, fraudée que les élections les dernières, celles de décembre 2010. Donc les choses ne vont pas du tout dans le bon sens de ce point de vue-là, mais de toute manière, peu importe les fraudes, peu importe, autant frauder, je serai politicien au Kosovo, je frauderai comme tout le monde, puisqu'on sait que les gens élus en réalité n'ont pas de pouvoir. Pourquoi se gêner? Le stade suprême d'ailleurs de cette pseudo-démocratie vient d'être atteint, un stade suprême, il y a toujours un stade ultérieure, mais enfin, en tout cas, une étape assez amusante, je vais vous passer le détail des événements politiques, mais le Kosovo, concrètement, n'a pas de majorité, mais il en faut bien une parce qu'on ne veut pas réorganiser une nouvelle fois des élections, ça coûte cher, et il faut des élections pour faire semblant. Donc, pas de nouvelles élections, pas de majorité quand même, donc on rafistole les trucs comme on peut, on élit, enfin, le Parlement, c'est la procédure constitutionnelle, élit un premier président, M. Berget Pacsoli. Mais c'est tellement mal fait qu'il y a des vices de forme. C'est comme dans un système où la forme est l'essentiel, on ne peut pas avoir des vices de forme. Donc son élection est cassée par la Cour constitutionnelle. Alors là, gros problème, que faire? L'option de nouvelles élections semblait se dessiner, mais c'est très coûteux, c'est embêtant. Et on a assisté à une scène proprement sidérante la semaine dernière, où l'ambassadeur américain à Pristina a réuni les dirigeants des principaux partis politiques et leur a dit « Voici la présidente, c'est elle, vous votez pour elle, sinon vous perdrez l'amitié des États-Unis. » Et tout le monde a voté pour elle. Bon, partant de là, il est difficile de parler de démocratie au Kosovo. Donc, enfin, c'est la personne qui a été élue, Madame Yahriaga, qui fait Yahriaga est peut-être une personne très sympathique. Hein, comme tout le monde, je ne la connais pas, puisque personne ne la connaissait. pour conclure, encore une fois, je vais marteler, j'essaie d'aller vite, hein, je vois que je dépasse un petit peu de temps qui m'était imparti, marteler ce terme de démocratie en le reliant à la question de l'intégration européenne. Incontestablement, la Bosnie et le Kosovo sont les points noirs, sont les pays qui sont à la traîne. Et parler d'intégration européenne de la Bosnie et du Kosovo, si on est un petit peu sérieux, c'est comme de parler des tableaux d'Ifrin à un aveugle. Ça n'a pas beaucoup de sens. On n'y est vraiment pas. Est-ce qu'ailleurs tout irait bien? En théorie, oui. Je veux dire, les étapes formelles, là aussi, se passent les unes après les autres. La Macédoine, par exemple, a le statut officiel de candidat depuis décembre 2005. Depuis, elle n'a pas avancé d'un pouce. Le Monténégro a obtenu ce statut, lui aussi, en novembre dernier, en novembre 2010. Est-ce qu'il ira plus vite que la Macédoine? Ça, on le verra. Je ne vais pas rentrer dans un débat général sur la problématique de l'intégration, en sachant que les réponses sont principalement du côté de l'Union européenne, plus que de celles des pays des Balkans occidentaux. Du côté des problèmes structurels de l'Union, qui trouvent, bien évidemment, un argument pour les masquer, qui consiste à dire que les pays des Balkans n'ont pas fait assez de progrès. C'est vrai. L'état de droit, il n'a pas avancé. Bon, on a intégré des pays où l'état de droit était, dire sans méchanceté pour quiconque, était en situation encore plus déplorable que dans les pays candidats des Balkans occidentaux. Donc, ces fameux critères de Copenhague, etc., sont des choses très belles, mais parfaitement relatives, tout le monde le sait, les véritables questions étant des décisions politiques. Et aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à la situation des opinions et des institutions de l'Union européenne, l'heure de l'intégration des Balkans occidentaux n'est pas pour demain. Alors, il y a juste un tout petit problème, qui est la Croatie. Parce qu'on a fait tant et tant de promesses aux Croates qu'on se retrouve dans une situation un petit peu gênante. Ça fait quand même quelques années, en gros, qu'on dit aux Croates, encore un effort, et c'est bon l'an prochain. Clairement, il faut non pas tenir ses promesses, ça. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est bien, enfin, tout de même. Et alors là, il se passe quelque chose d'assez étonnant en Croatie. D'après les derniers sondages, la majorité de l'opinion croate est contre l'intégration européenne. Le gouvernement s'est engagé à convoquer un référendum avant que l'adhésion ne soit actée, et d'après les sondages, la majorité des Croates, si le référendum avait lieu aujourd'hui, voterait contre l'intégration. Pour différentes raisons, pour des raisons très 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 diverses. Je crois qu'il y a des paramètres propres à la Croatie, des paramètres extérieurs. Dans les paramètres extérieurs et globaux, il y a quelque chose de majeur qui s'est produit en 2007. Jusqu'à présent, dans tous les pays d'Europe de l'Est, aspirer à rejoindre l'Union européenne, c'était dans la nature des choses, c'est il faut. Et l'Union européenne, c'était fondamentalement le club des pays riches. Si on est dans l'Union européenne, tout n'ira pas bien du jour au lendemain, mais enfin on vivra mieux. Ça semblait évident. Et alors le débat sur les principes fondateurs, les pères fondateurs de l'Union, ça, bon, c'est pas l'essentiel. Il y avait une sorte de, comment dire, d'impératif catégorique qu'il fallait aller dans l'Union et le sens de l'histoire ne pouvait pas être autre. Et une fois dans l'Union, tout n'était pas réglé, mais les choses devaient aller mieux. Or, l'expérience de 2007, à savoir l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie, a montré qu'on pouvait être intégré à l'Union européenne et ne pas aller mieux. Et ça, je peux vous assurer que les opinions en Croatie, en Serbie, en Macédoine ont beaucoup réfléchi sur ce point. Et de fait, on ne vit pas mieux aujourd'hui, a priori, en Bulgarie qu'avant l'intégration. L'autre événement qui s'est produit juste après, c'est bien sûr la crise économique mondiale, qui n'a pas contribué à renforcer, la cote globale de l'Union européenne, en sachant que durant toute la période précédente, les 15 années précédentes, l'acteur politique extérieur qui pouvait influencer, déterminer les politiques publiques des pays des Balkans était l'Union européenne, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'acteur numéro un, c'est le FMI. Or, les critères du FMI et ceux de l'Union européenne ne sont pas du tout les mêmes. Pour l'Union européenne, il y a effectivement des critères de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, ça veut dire des fonctionnaires bien payés. Pour le FMI, il faut réduire les déficits publics. Réduire les déficits publics, ça veut dire des policiers, des médecins mal payés. Ça veut dire plus de corruption. On peut tourner les choses dans tous les sens, c'est des vérités de base, et aujourd'hui tout le monde sait très bien que l'acteur majeur, celui qui permet au gouvernement de boucler leur budget en fin de mois. Ce n'est plus l'Union Européenne, contrairement à ce qui était le cas jusqu'en 2008. C'est aujourd'hui le FMI qui intervient en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Macédoine, etc. Donc la situation a radicalement changé de ce point de vue-là. Il se passe dans ce contexte des choses étonnantes. Par exemple, depuis quelques deux mois à peu près, il y a des manifestations dans tous les pays des Balkans, des mouvements, on appelle ça les mouvements Facebook, parce qu'ils sont nés sur Facebook, sur le réseau social. Vous avez un soir sur deux, depuis le mois de janvier, 5 à 10 000 personnes qui défilent dans les rues de Zagreb avec des banderoles qui proclament non à l'Union Européenne, renationalisation des banques et qui brûlent même le drapeau européen. C'est inédit en Europe de l'Est. Alors quel est le sens de ce mouvement? Je ne sais pas. Il y a, si on analyse ce qui se passe en Croatie, une convergence un petit peu étonnante de mouvements clairement ancrés à gauche et de mouvements au contraire nationalistes clairement ancrés à l'extrême droite. Pour l'instant, les manifestants des deux camps cohabitent, ne sont pas tapés dessus et sont d'accord sur une chose, c'est le grand slogan depuis un mois, il faut renationaliser les banques. On verra bien comment les choses évolueront. Il y a une échéance majeure pour la Croatie qui est tout de suite, vendredi, le verdict que rendra le TPI sur le général Ante Gotovina, qui pourrait, selon tous les experts, avoir, quel que soit le verdict, de lourde condamnation ou de légère condamnation, voire de quasi-acquittement, qui dans tous les cas de figure pourrait totalement rebattre les cartes politiques, en sachant que le parti au pouvoir en Croatie fait encore mieux que l'UMP en France, puisque son taux de soutien aujourd'hui est de 7%. Et là aussi, une certaine forme de record. Je parle du RADB. Alors, ces manifestations en Croatie, il faudrait prendre le temps d'en parler longuement, de les analyser, je ne vais pas le faire maintenant. Il y a juste une chose qui m'étonne, c'est la réaction de certaines personnalités européennes, par exemple, d'une députée européenne, de la députée démocrate chrétienne allemande Doris Pack, qui est quelqu'un très engagé sur les Balkans occidentaux depuis des années, et qui s'est toujours présentée comme une des grandes ennemies de la Croatie, et qui a eu des propos extrêmement violents pour dire que ces manifestations étaient un scandale, que les gens n'avaient rien compris, et qu'ils amenaient la Croatie dans une direction catastrophique. Ces propos de Doris Pack m'ont surpris. Je trouve un petit peu gênant, par principe, qu'une personnalité extérieure puisse porter un jugement sur des mouvements qui se déroulent dans un pays comme la Croatie. Et puis surtout, ça m'amène à m'interroger sur ce que cela veut dire être un ami de la Croatie. En gros, j'ai l'impression que pour des gens comme Doris Pop, je ne veux pas lui faire un procès d'intention du tout, je vous rassure, mais les Croates sont extrêmement sympathiques tant qu'ils ne remettent pas en cause d'aucune manière le processus qu'on leur a fixé. Pourtant, la démocratie, c'est de remettre en cause tous les processus, même les bons. La démocratie, c'est le droit de faire des erreurs également. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Cette attitude de Doris Pack m'a fait penser à ce qu'écrivait le philosophe slovène Slavoj Žižek, à propos des Albanais du Kosovo, en disant qu'en Occident, on adore les Albanais du Kosovo tant qu'ils sont des victimes, qui ne disent rien, qui restent silencieux, qui souffrent, qui pleurent. Là, ils sont parfaits. À partir du moment où les Albanais du Kosovo veulent prendre leur destin en main, ben ils deviennent de dangereux extrémistes, voire des criminels. Si l'on regarde aujourd'hui la situation au Kosovo, là aussi on a un état un petit peu particulier, un peu comme la Bosnie-Herzégovine auquel personne ne croit. Cet état du Kosovo, qui on veut véritablement aujourd'hui? Avant tout, je dirais, un carteron de technocrates européens plus ou moins ineptes, et une poignée de politiciens locaux corrompus. Après, si la majorité des Albanais du Kosovo disent que leur pays, à l'avenir, ne s'appellera pas le Kosovo, mais l'Albanie, pourquoi pas? C'est très mal, parce que ça remettra en cause la stabilité de la région. Mais il y a un moment où il faut peut-être prendre le risque de la briser, cette stabilité, pour permettre à deux choses. D'une part, de sortir, de débloquer les situations bloquées, et puis surtout, pour que cette revendication, cet objectif démocratique puisse prendre sens dans les Balkans. Et là, j'en reviens à l'intégration européenne. Je crois qu'il y a une critique de l'intégration qui se développe dans des pays comme la Croatie. C'est une chance fantastique pour le processus européen lui-même. Parce que quand le processus européen apparaît comme quelque chose qu'il faut faire, sur lequel il n'y a pas de question. À quoi arrive-t-on ? À un jeu de faux-semblants, où les politiciens les plus corrompus, qu'ils soient serbes, croates ou kosovars, peu importe, tiennent le discours qu'il faut aux représentants européens. Parce qu'ils ont compris les règles du jeu. Vous avez par exemple un des dirigeants traditionnels de l'extrême droite serbe, M. Nikolic, qui aujourd'hui est totalement pro-européen. Parce qu'il a bien compris que c'était le discours qu'il fallait tenir. Et qu'en somme, sachant que l'intégration, ce n'est pas pour demain, se dire pro-européen, ça permet juste d'être à nouveau invité au cocktail de l'ambassade de France. Point final. Bon, les petits fours ne sont pas fabuleux à Belgrade, mais peu importe. Ça permet en tout cas d'être présentable. Là, on est dans, comment dire, une déviation du processus d'intégration européenne, dans un processus qui se limite à des faux-semblants. Le véritable enjeu, c'est qu'il y ait une appropriation du sens de ce processus par les citoyens des pays des Balkans occidentaux, c'est-à-dire que c'est une exigence de démocratie, et que l'intégration européenne soit critiquée ne peut être au bout du compte qu'une chance pour l'intégration européenne. De même, je crois que la déstabilisation n'est qu'une chance pour une véritable stabilisation de la région. Il y a trop de problèmes qu'on a cru résoudre en les faisant passer sous le tapis. On pousse un petit peu la poussière et on referme la vieille armoire, on laisse les moutons sous le lit, sous le tapis. Ça ne peut jamais tenir très longtemps. Aujourd'hui, on est assurément à un tournant de l'histoire des Balkans. On est à un tournant parce qu'il est clair que l'époque des conflits armés est terminée. Ça, je crois. C'est évident. On est aussi à la fin de ce cycle, disons, d'une dizaine d'années qui commence après la guerre du Kosovo en 1999, où tout semble aller lentement, mais assurément, vers cette intégration européenne. Aujourd'hui, rien n'est certain. C'est un moment de totale incertitude. Espérons qu'il puisse être utilisé pour redéfinir le sens de ce processus d'intégration et pour que ces pays des Balkans, qui, comme le disait M. Paradis, sont, malgré la crise, sont en train de se reconstruire sur un plan économique. C'est une évidence. On est sorti de l'urgence. On est à un autre stade, que ces pays puissent devenir de véritables démocraties, c'est-à-dire des démocraties où la souveraineté appartient aux citoyens, ce qui passera peut-être par des modifications de frontières. Mais à un moment, il vaut mieux que les frontières bougent plutôt que de maintenir des illusions qui sont totalement contradictoires avec une véritable démocratie. Je vais m'arrêter là, j'ai parlé déjà beaucoup trop longtemps.